tu nous parles. Et que Seigneur, ton message passe. Que cela pénètre les cœurs. Et cela apporte un changement. Et que la gloire te revienne. Bénis ces moments, Seigneur. S'il te plaît, saisis-toi de moi. J'ai besoin de ta grâce pour communiquer la vie à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous ouvrons nos Bibles dans Actes 2, 1 à 4, un passage que nous connaissons. Ensuite, nous lisons Actes 7, 37 à 38. J'ai lu pour nous tous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Jean 7, 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Et bien, notre thème de l'année, c'est « Plus près de toi, Seigneur », n'est-ce pas? Et pour être plus près du Seigneur, nous avons besoin de la chambre haute. Et ce matin, le thème de mon message, c'est le retour à la chambre haute. La chambre haute reste, demeure, un lieu de passage important pour les enfants de Dieu. Et surtout pour ceux-là qui servent le Seigneur. Dans un domaine ou dans un autre. La chambre haute fait la différence entre les chrétiens puissants, les chrétiens forts et les chrétiens faibles. Et ce matin, mon message gravitera autour de quatre points. Le premier point, c'est l'événement de la chambre haute. Le second point, c'est l'accomplissement de la promesse. Le troisième point, c'est le déversement de l'esprit. Enfin, le dernier point, c'est l'invitation à retourner à la chambre haute. Revenons au premier point, l'événement de la chambre haute. Cet événement, c'est la promesse, l'accomplissement, la promesse du Père. Dans Joël 2, versets 28 à 29, la Bible dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ça, c'était la promesse du Père. Et cette promesse est accomplie dans Actes 2, 1 à 4 que nous venons de lire. Jésus n'a pas dérogé à la règle. Il a rappelé aux disciples d'attendre la promesse du Père. Dans Actes, plutôt dans Luc 24, verset 49, Jésus dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et ceci est répété dans Actes 1, 4 à 5, où nous lisons, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Mais quel est le but de la chambre haute? Le but de la chambre haute est que les chrétiens soient remplis, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, afin de recevoir la puissance d'en haut et servir le Seigneur. C'est ça le but. Rempli du Saint-Esprit, Et on reçoit la puissance de haut, d'en haut, et on sert le Seigneur. C'est ça, limite. Cela me conduit au second point, l'accomplissement de la promesse. L'événement à la promesse est accompli dans ce que nous avons lu, acte 2, 1 à 4. Les disciples étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en langue. On les entendait parler en d'autres langues. Le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Cet événement a changé complètement la vie des disciples. Non seulement leur vie, mais aussi leur ministère. Après le baptême dans le Saint-Esprit, les faibles sont devenus forts, puissants. Et ils parlaient de Jésus avec hardiesse, avec vivacité. Ils n'avaient pas peur. Les gens étaient étonnés et touchés par leur message. Dans Actes 2, 37 à 39, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Eh bien, cette promesse était pour toi, c'était pour moi. Ceux qui sont au loin, loin de Jérusalem, c'est nous ici. Amen. Lorsque quelqu'un est touché, tout change en lui. Lorsque le cœur est touché, sa vie change complètement. Sa pensée change complètement, sa mentalité, ses habitudes, tout change. Les psychologues disent que le caractère de quelqu'un ne change pas. Mais théologiens, nous disons que lorsque quelqu'un est touché par le Seigneur, son caractère peut changer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui vient de la terre qui change l'homme, c'est ce qui vient d'en haut. Lorsque quelqu'un est touché, « Oh, mes frères, que ferons-nous ?» Lorsque quelqu'un est touché, il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose. Est-ce que toi, tu es touché par les messages qui sont prêchés ici? Et si tu es touché, qu'est-ce que tu fais? « Oh, mes frères, que ferons-nous ?» Et comme j'ai l'habitude de dire, lorsqu'on est touché, on veut faire quelque chose. On veut travailler pour Dieu. Lorsqu'on est touché, on veut donner au Seigneur. La poche n'a pas de valeur. Lorsqu'on est touché, le cœur est touché. Il n'y a même plus de racisme, mais la peau n'a pas de valeur. Le noir et le blanc sont ensemble. L'illettré et l'intellectuel sont ensemble. On est une famille. On réalise qu'on est la famille des enfants de Dieu. Lorsque le cœur est touché, tout change en nous. Plaise à Dieu que chaque cœur soit touché ce matin. Cela me conduit à parler du troisième point, le déversement, les sept déversements de l'Esprit. Le livre des Actes établit un modèle à suivre. Nous avons Actes 2, 1 à 4, c'est le déversement. Le premier déversement de l'Église. Là, alors qu'il priait, le feu est descendu. Ce feu s'est divisé. Ce feu s'est posé sur chacun d'eux. Après, le feu a disparu, c'était dans le cœur. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Ils ont commencé à étonner les gens. Les choses ont changé dans leur vie. Ça, c'est le premier déversement. Ils ont parlé en langue. Le second déversement, c'est dans Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est le second déversement. Il y avait des persécutions. Ils avaient des problèmes. Mais ils n'ont pas cherché l'oncle. Ils n'ont pas cherché la tante. Ils n'ont pas cherché les grands frères. Ils ont cherché Dieu. Et Dieu a envoyé ce qui réconforte. Il a envoyé ce qui change. Il a envoyé ce qui transforme nos vies. Il a envoyé celui qui nous donne la force, le courage. Ils n'ont pas dit, Seigneur, tue nos ennemis. Mais Seigneur, étends ta main. Pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. C'était les prières. Et le Seigneur a répondu par les tremblements de la terre. Le troisième, c'est à Samarie, dans Actes 8, 14 à 17. Philippe avait fui la persécution. Il se retrouve à Samarie. Et il prêche la parole de Dieu. Et les gens reçoivent Christ. Il y a la poussière qui monte à Samarie. Samarie, c'était une église de réfugiés, des gens qui fuyaient la persécution. Et on apprend à Jérusalem qu'à Samarie, la poussière monte. Et on envoie Jean et Pierre. Lorsqu'ils arrivent, leur première préoccupation, c'est de prier pour les gens, d'imposer les mains pour que ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. D'abord, la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole, les choses changent dans notre vie. Ils ont reçu la parole avec empressement. On a prié pour eux et le Saint-Esprit est descendu, comme au jour de la Pentecôte. Au point même qu'un magicien a voulu copier ce que Pierre faisait. Il a demandé d'acheter le don du Saint-Esprit. Mais cela n'a pas été possible. L'autre déversement, après la Samarie, le quatrième, c'est à Damas. C'est avec Paul. Paul qui allait persécuter les gens. Le Seigneur l'arrête. Il projette de son cheval. Il tombe par terre. Il devient aveugle. Il ne voit plus rien. Et maintenant, le Seigneur lui dit, Pierre, tu ne pourras régimber contre les aiguillons. Alléluia. Tu es ici dans cette salle. Tu peux monter, descendre, parce que tu as écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu t'est saisie. Et il a envoyé chez un nommé Ananias. Ananias, qui était-il? Avait-il un titre ecclésiastique? Était-il un grand prophète? Était-il un grand évangéliste, un grand pasteur, un grand docteur? Non, c'est un simple fidèle. Dieu connaît même les simples fidèles. Dieu te connaît là où tu es. L'essentiel, c'est que tu marches dans sa crainte. Il envoie chez Ananias. Et quand Paul arrive chez Ananias, Ananias, au lieu de réformer sa pensée, il dit, mais Seigneur, tu vois cet homme, le mal qu'il a fait. Ananias vient apprendre à Dieu ce que Paul a fait. Dieu voit tout. Il n'a pas besoin d'apprendre quelque chose des hommes. Et il n'a pas besoin de demander la permission de quelqu'un pour pour agir. Il est le Dieu compatissant. Il avait un plan pour l'apôtre Paul. Il dit, non, écoute Ananias, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Il va souffrir pour l'évangile. Et je vais l'envoyer auprès des rois, auprès des nations, pour porter mon message. L'apôtre Paul, lui qui était l'ennemi de la croix, est finalement devenu l'apôtre de la croix. Dieu sait changer les choses. Il sait bouleverser les choses. Et il prie pour Ananias, quelque chose tombe de ses yeux comme des écailles. Et en même temps, Paul est baptisé du Saint-Esprit. Paul qui était parti avec la mission de lier tout ce qui confessait le nom de Jésus, a changé de message à l'instant même. Il a changé de message. Il a changé de comportement. Parce que quelque chose s'est passé dans sa vie. Alléluia. Et nous avons aussi le déversement de Césarée. Là, à Césarée, il y avait un officier romain, un craignant Dieu. Dans Actes 10, 44 à 47. Cet homme craignait Dieu. Il donnait ses aumônes, il donnait ses offrandes. Il priait le Seigneur. Dieu envoie un ange. Il lui dit, tes prières sont parvenues au Seigneur. Mais on voit les gens chercher Pierre dans la maison de Simon le croyeur. Il est à Joppé, envoie. Dieu connaît les adresses. Il connaît tout. Et cet homme, il dit, c'est lui qui viendra. C'est lui qui t'apportera le message du salut. Le message par lequel tu seras sauvé. Fini le message des anges. L'ange pouvait lui parler. Mais l'ange a dit, non, ça c'est plus ma responsabilité. Il y a Pierre. Il y a Pierre. Les gens vous parlent des anges pour vous impressionner. Non. Les anges sont là. Mais ils sont au service de ceux-là qui croient au Seigneur. La Bible dit, l'ange éternel campe autour de ceux qui les craignent. On envoie chercher Pierre. Pierre était en train de prier, il tombe en extase. Et il voit une nappe remplie de quadrupèdes, d'animaux impurs. Le Seigneur lui dit, tu les manges. Il dit, mais Seigneur, tu sais que je n'ai rien mangé d'impur depuis ma naissance. Nous, Juifs, on ne mange pas ça. Orgueil spirituel. Pierre, les Juifs étaient des racistes, non de peau, mais des valeurs spirituelles. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Dieu est le Dieu de toutes les langues. Dieu est le Dieu de tous les peuples. Dieu est le Dieu de l'univers. Si moi je prêche, c'est une grâce. Dieu peut susciter quelqu'un pour prêcher aussi. Les Juifs, Israël, étaient un instrument de Dieu pour répandre le message de Dieu. Et finalement, Dieu lui dit, écoute, ce que moi je déclare, plus personne n'a le droit de le déclarer impur. Et après ce moment, on lui dit, écoute, il y a des gens qui t'attendent. Des gens qui viennent de chez Corneille. Et il est parti. Quand il arrive chez Corneille, il prêche le message comme au jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Les mêmes réactions. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit alors qu'ils n'avaient même pas reçu le baptême d'eau. Est-ce que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit sans passer par le baptême d'eau? J'ai dit oui. Ça s'est passé dans la maison de Corneille. Il a réuni tous les siens,
tous ses collaborateurs, toute sa famille. Quand on est sauvé, on cherche à ce que les autres soient sauvés. On ne peut pas être sauvé seul. Ah, étalier comment? C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta maman, c'est ton père. Le salut est individuel, bien sûr, mais nous devons faire en sorte que ceux qui nous entourent soient sauvés. Si la Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est parce que c'est pas automatique, c'est parce que tu vas parler à ta famille. Si tu ne parles pas à ta famille, là, ta famille ne sera pas sauvée. Corneille a réuni tout le monde. Pierre a commencé à prêcher. Alors qu'il prêchait, n'avait même pas fini. Le Saint-Esprit se met en danse. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Pierre regarde, il dit, mais ils sont passés par la même expérience que nous. Allons-nous leur refuser le baptême d'eau? Et ces gens furent baptisés d'eau. Et il y a aussi l'autre déversement. C'est Antioche. Acte 13, 1 à 4. C'était une église spéciale, l'église d'Antioche. Il y avait des prophètes, des docteurs. Et dans une église, il y a des prophètes, il y a des docteurs, les pasteurs ne manquent pas. Une église avec plusieurs sphères de ministère. Une église qui était une église multiraciale. On parle de Manahem, on parle de Paul, on parle de Cyrus de Cyrène. On parle de Niger. Niger, c'est où, n'est-ce pas, en Afrique? Une église où il y avait plusieurs races. L'église, ce n'est pas l'église d'une tribu. L'église, ce n'est pas l'église d'une nation. Dans l'église, nous sommes pour les nations, nous sommes pour les tribus, nous sommes pour les langues, mais l'église n'est pas tribaliste. L'église n'est pas nationaliste. On a une église nationale. C'est l'église de tout le monde. Et c'était une église où le Saint-Esprit était en action. Une église spirituelle. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit va parler. Oh, ça, j'aime. J'aime. Combien de fois peut se passer des dimanches, on n'entend même pas quelqu'un parler, une prophétie. Non, ce n'est pas correct. Dans nos églises, ce n'est pas correct. Le Saint-Esprit a parlé dans cette église d'Antioche. Mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient déjà appelés, mais c'est un changement d'étape. Dieu peut t'appeler à ceci, et puis après quelques temps, tu changes d'étape. Ce que le Seigneur fait. Donc les gens étaient baptisés dans cette église aussi, même si ce n'est pas dit clairement. Il y a aussi l'église d'Éphèse, c'est ça, le septième déversement. Dans Acte 19, Six à sept. Vous pouvez même commencer avec le verset 1. Paul arrive dans cette église. Et la Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Il leur pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul, c'est un grand théologien. Un grand théologien. S'il a posé cette question, il savait pourquoi. Mais quand on reçoit Christ dans notre vie, nous recevons le Saint-Esprit, vrai ou faux? Il y a les cachets du Saint-Esprit. Mais Paul voulait dire, avez-vous été baptisé? Parce que le baptême fait la différence. Les autres disent, non, nous n'avons même pas entendu parler de cela. Jamais. Et ils passent à une autre question. Quel baptême avez-vous reçu? Ils ont dit le baptême des gens qui consistait seulement à la repentance. Et il les a baptisés du baptême de Jésus-Christ. qui englobe la repentance, mais qui signifie aussi la mort et la résurrection de Christ. Et après cela, Paul a prié pour ses Éphésiens. C'était une église de 12 personnes seulement. Vous voyez, les églises comme ça qui ne croissent pas sont des églises à problème. 12 personnes. Quand les autres veulent venir, ils sont des batutubandaki. Nous, on a commencé, nous. Vous, Jésus. Hein? Non. L'église est pour tout le monde. L'église ne croissait pas. C'était un club. Mais quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, Paul les a amenés dans une église, dans une école dénommée Tyrannis, où ils sont passés 2 ans, le baptême dans le Saint-Esprit, et puis une formation solide qui met l'accent sur le ministère, c'est une bombe. Les étudiants de Paul ont embrasé toute l'Asie. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils avaient la connaissance de la doctrine. Alléluia. Ça, c'est le dernier déversement. Et cela me conduit au dernier point, l'invitation à retourner à la chambre haute. Dans Jean 7, 37 à 38, nous l'avons lu. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. En disant cela, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus proclame qu'il est le fournisseur des âmes assoiffées, le pourvoyeur des esprits altérés. Il nous invite à partager ses grâces, ses bénédictions. Il nous invite à obtenir assistance auprès de lui. Malheureusement, plusieurs ne se rendent même pas compte de leurs besoins, ni de leur vide interne. En lançant cet appel, Jésus montre qu'il est le seul capable d'étancher notre soif. Nous vivons dans le monde où les gens ont soif. Soif de la vraie paix. Soif de la joie. Une joie qui n'est pas produite par l'alcool ou par le sexe. Les gens ont soif du repos. Repos même quand il y a des troubles. Les gens ont soif de la vie de qualité. Pas aujourd'hui malade, demain malade, l'autre jour malade. On a besoin d'une vie de qualité. Dieu n'a pas demandé que tous nous soyons riches matériellement. Mais si on est riche spirituellement, on peut manger son pondou, on peut manger son piodi avec des foufous, et on aura meilleur en bon point. Et les gens diront, il est béni. Effectivement, tu es béni, non par ce qui est matériel, mais par ce qui est spirituel. Les gens ont soif. Et pour combler cette soif qu'il y a dans le cœur, des gens boivent à des puits infectés, à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Dans Jérémie 2, 13, Dieu dit, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en Jésus seul que nos besoins sont satisfaits. Et pour cela, il nous invite à venir boire sa source. Si nous répondons à cette invitation, des fleuves d'eau vive jailliront de notre sein. Des fleuves d'eau vive, ici, peuvent être interprétées comme diverses grâces de l'Esprit. Bien-aimé, Jésus lui-même, c'est un pentecôtiste. Un pentecôtiste. Le jour de son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur sa tête, sous la forme d'une colombe. Et Jésus se révèle comme la source qui ne tarit jamais. Lorsque nous buvons à sa source, nous devenons aussi des sources qui répandent diverses grâces sur les autres. C'est pourquoi, s'adressant à la femme samaritaine dans Jean 4, verset 14, Jésus dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, lui seul, est capable d'étancher notre soif. Chercher l'étanchéité ailleurs est une erreur et une peine perdue. Une peine perdue. Seul Jésus peut nous remplir. Seul Jésus peut nous satisfaire. Seul Jésus peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier rapidement. Seul Jésus. Plus près de Jésus, il faut retourner à la chambre haute. Où es-tu? Est-ce que tu es à la chambre haute? Là où tu es, est-ce que tu donnes? Là où tu es, est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Frères et sœurs, nous voulons prier pour toi. Mais si on n'a pas Jésus, c'est difficile. Il faut être comme ceux de la maison de Corneille à Césarée. Puisque tu as entendu la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un veut-il que nous puissions prier pour lui ce matin? Si oui, tu peux lever, te lever et lever ta main. Si tu veux, tu peux te lever. Tu peux lever ta main. Merci. Gloire au Seigneur. Donc, je suppose que tous ici, nous sommes vraiment bien. Merci. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour prier. Mais s'il vous plaît, venez la semaine. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit fasse son travail dans votre vie. Il y a la Sainte-Seine. On n'a pas beaucoup de temps avec les trois cultes. Nous voulons prier pour vous. Papa Ernest, venez.
Pour ta parole ce matin, cette parole qui vient nous rappeler que tu es la source intarissable. Merci parce que le bien-aimé et nous-mêmes, Seigneur, nous venons auprès de ta source ce matin.
Oui.
En voyant l'importance d'être dans la chambre haute. Mm-hmm. Ô Saint-Esprit, prends-nous en charge pour que nous ne puissions pas défaillir quant à notre foi.
Oui.
Merci de bénir ce moment et de bénir le peuple, et surtout bénir ton serviteur,
oui,
qui nous a encore parlé de l'importance